Donc avant de lancer la discussion, étant donné que Marie-Claude Gebaou n'a pas pu être présente parmi nous, nous allons écouter quelques minutes d'un entretien qu'elle m'avait accordé en janvier dernier à propos du travail qui a été effectué avec Renzo Piano. Je rebondirai en posant une première question à Monsieur Bensa. Donc je relève dans ce qu'a dit Marie-Claude Gebaou, notre identité est devant nous. Donc ce serait presque une indication qui a été laissée par son mari Jean-Marie Gebaou à l'égard de Renzo Piano. Donc le programme donné pour réaliser le bâtiment, ce serait d'éviter de sombrer dans une caricature du monde kanak.
Oui, bien sûr. Le danger de ce projet, c'était de faire un Kanakland ou de faire quelque chose de kitsch, hein, qui aurait été une sorte de reconstitution passéiste du monde kanak, alors que l'enjeu, c'était de montrer que le monde kanak prenait en charge ses propres affaires pour aller de l'avant. Et cette phrase, notre identité est devant nous, elle a été prononcée par Jean-Marie Chimbaou dans un entretien pour Les Temps modernes en 1985, justement à un moment où on essayait de repousser les Kanaks dans la primitivité, dans l'archaïsme, etc. Et donc, il s'était un petit peu énervé quand on lui avait posé la question, mais dans le fond, vous êtes un petit peuple perdu dans les arbres, etc., et complètement archaïque, lié à des choses qui n'existent plus aujourd'hui. Et lui, il avait dit d'ailleurs à un autre moment, dans la même période, nous ne voulons pas devenir les Indiens du Pacifique. C'était aussi cette idée qu'il ne voulait pas être une réserve de primitivité pour l'imaginaire occidental. Et donc, il a affirmé, bon, c'est notre identité est devant nous. Alors, effectivement, l'équipe de Renzo Piano a repris cette dimension, mais ça a été aussi repris par Marie-Claude Chimbaou, par Octave Tonia, qui étaient des militants et qui voulaient absolument pas que le centre culturel soit une sorte de conception muséographique de la culture kanak, mais au contraire, un exemple de la façon dont la culture kanak prenait en charge le destin de la Nouvelle-Calédonie et tendait la main aux autres communautés dans cette perspective.
Et donc votre rôle a été très important auprès de Renzo Piano afin qu'il s'imprègne de cette culture kanak. Donc l'exposition qui est présentée en ce moment à Arc en Rêve, elle témoigne justement, donc il porte une petite réponse, elle témoigne de cette capacité que possède Renzo Piano à savoir écouter le contexte d'une commande et à la traduire, à la mettre en forme. Dans l'entretien, c'est ce qu'explique Marie-Claude Chimbaou, qui a eu vraiment un réel talent de Renzo Piano à comprendre quel était l'enjeu posé par la commande. Est-ce que vous pourriez développer un peu comment ça s'est passé, comment s'est passée la collaboration avec Renzo Piano, comment il s'est imprégné de cette culture, comment il a compris cette culture?
Je pense que Renzo n'avait jamais construit dans une autre civilisation, dans une autre culture. Je ne pense pas qu'il ait construit en Inde ou en Égypte. Voilà. Et donc, quand il est arrivé en Nouvelle-Calédonie, il a tout de suite compris que c'était compliqué, qu'il fallait faire attention. Et donc, il s'est informé. Et bon, il se trouvait que je venais de publier ce petit bouquin. Et il avait envie de savoir comment ce pays en était arrivé d'abord à cet art si beau, puis aussi à ces affrontements, à ces difficultés terribles. Et son projet sortait de toute une période, non seulement de la période des événements de 84 à 89, mais sortait aussi d'une longue nuit de négation des Kanaks. Donc il s'agissait d'avoir des connaissances suffisantes pour pouvoir transformer cette situation historique en un projet architectural. Alors, il m'a demandé, en gros, de lui raconter quelle avait été mon expérience en Nouvelle-Calédonie. Voilà, j'ai fait ce que j'ai pu. Je pense que si Jean-Marie Chimbaou avait été vivant, j'aurais peut-être pas été là, vous voyez. C'est pas que je l'ai remplacé, mais Jean-Marie Chimbaou avait fait aussi des études d'ethnologie et était tout à fait en mesure de repenser sa société pour un architecte. Alors moi, j'ai fait ce que j'ai pu dans ce dialogue avec Renzo. Et évidemment, pour lui, tout ça était complètement nouveau. Enfin, je ne pense pas qu'il avait une profession d'architecte, une carrière d'architecte dans les pays européens ou occidentaux. Et donc là, il y avait quelque chose de tout à fait nouveau et qui allait même à l'envers, il le dit dans le film, hein, l'éphémère, l'importance du geste, la fragilité, l'importance de la parole. Alors tout ça, c'est vrai que c'est un excellent étudiant en ethnologie. Si vous voulez, il a atteint le niveau du doctorat en très peu de temps. Si vous voulez. Il a tout de suite compris de quoi il s'agissait. On voyait aussi ce qu'il a dit tout à fait à la fin, par une sorte de finesse qui fait que Renzo Piano ne dissocie jamais, j'ai l'impression, son travail d'architecture d'un travail sur lui-même, de compréhension de lui-même et des autres. Et ça, effectivement, c'était tout à fait étonnant. Donc, nous sommes allés avec Paul Vincent voir Renzo Piano à Gênes. Et là, dans une semaine de travail très isolé, bon, moi, je lui apportais des images, des photos, des dessins, des carnets de notes, des explications. Et lui, il dessinait. Il essayait de s'imprégner un petit peu de ce qu'il pouvait. Il dessinait, d'ailleurs aussi Antoine Chaillat dessinait à côté de lui. Donc l'équipe s'imprégnait un petit peu de toute cette documentation. Tout le monde s'est jeté d'ailleurs sur tous les documents. Il y avait des problèmes de matériaux, de textures, de fibres, de couleurs, pour essayer de trouver des supports architecturaux, visuels, physiques, à cette spiritualité kanak, à cette aventure. Il m'a aussi demandé beaucoup de textes de Jean-Marie Tchimbaou, que grâce à Pierre Culan, qui est ici, nous avons pu publier en 1996. Et Renzo Piano était très avide d'un dialogue avec Tchimbaou. Il essayait de comprendre assez vite, parce qu'en même temps, il en faisait d'autres projets, il n'avait pas que ça en tête, etc. Et la Nouvelle-Calédonie, il ne pouvait pas y rester non plus très très longtemps, donc il fallait qu'il arrive à synthétiser toutes ces connaissances qu'on pouvait lui transmettre. Et d'un autre côté, ce qui m'a frappé, et Octave Tonia le dit dans le film de façon un petit peu ironique ou amusante, Renzo Piano avait aussi son œuvre à jouer dans cette affaire. C'est-à-dire qu'il ne s'agissait pas de tout céder à la culture kanak. Alors, on serait retombé dans ce qu'on disait tout à l'heure, dans un kanak-land. Il s'agissait de maintenir un geste architectural, une narration architecturale qui puisse relier le centre Georges Pompidou au centre culturel de Nouméa. Il fallait pas qu'il y ait de rupture. Là. Et ça, c'est ce que j'ai appris à son contact, c'est-à-dire la cohérence d'une œuvre qui tendait à maintenir. Et il voulait bien absorber le monde kanak, mais pas se faire entièrement absorber par lui.
Gilles Dagneau, est-ce que vous pourriez évoquer un peu votre expérience de la culture kanak? Vous avez passé 10 ans en Nouvelle-Calédonie, et pourquoi cet intérêt, et comment c'est... est-ce que vous pourriez revenir un peu sur la genèse du projet de film Le Chemin Kanak? Peut-être le titre d'abord.
Au départ, quand je préparais le projet, il y avait un titre que j'avais trouvé qui ne me satisfaisait pas du tout, c'était Renzo Piano, l'aventure océanienne. Bon, et puis le titre est resté comme ça. Et puis, juste avant de terminer la copie finale du film, en général, je fais toujours des projections, en général deux projections avant qu'on arrive au stade final, avec un petit comité de gens qui vont me faire des remarques, dire des choses, pour que je puisse faire des corrections. Et il y avait dans ces personnes, il y a Wally Scottra qui intervient dans le film, et il voit le film et puis il me dit mais le titre c'est pas ça, il faut que tu l'appelles Renzo Piano, non, il faut que tu l'appelles Le Chemin Kanak. Et je me dis mais oui, c'est exactement ça, mais je dis pas Le Chemin Kanak, non, Renzo Piano, Le Chemin Kanak. Et en fait, oui, parce que si Renzo, c'est ce que vient d'expliquer Alban Bensa, si Renzo Piano n'avait pas fait ce chemin, c'est-à-dire cette espèce de compréhension et de clé à comprendre de la culture kanak, de gens rencontrés, il n'aurait pas pu faire ce centre culturel. C'est-à-dire que c'est un passage obligé si on veut faire quelque chose en Calédonie, que ce soit une œuvre architecturale ou même un film pour moi. Alors moi j'ai mis très longtemps avant de... parce que je suis beaucoup moins rapide que Renzo Piano, donc j'ai vécu là-bas 10 ans... j'ai mis, je dirais, au moins 4 ans avant de commencer à comprendre un peu le pays, qui est un pays complexe. Et puis j'ai commencé à faire des films. Celui-ci en est un des aboutissements, puisque maintenant je vis en France, qui m'a été, en fait, c'est commandité par le Centre culturel et la DCK. Mais comme il vient après, à la suite d'une série de films... autour de Jean-Marie Tchimbaou, c'est un film de commande, mais dans lequel j'ai relativement carte blanche. Et bien que la DCK soit le commanditaire du film qui a été réalisé à l'occasion des 10 ans du centre, j'ai pu organiser le film tel que je le souhaitais. C'est-à-dire que voilà, eux ils valident, ils sont les commanditaires, mais il y a un climat de confiance qui s'est installé depuis de nombreuses années qui font que j'avais un peu carte blanche. Je n'avais pas l'obligation de montrer forcément tout. Et d'ailleurs, on ne montre pas tout, on ne dit pas tout. Il y a des gens très importants comme Paul Vincent qui qui était sur le projet, mais qu'on ne voit pas dans le film, parce que faire un film, c'est comme faire voilà n'importe quel travail artistique. On fait des choix, on détermine un axe, des gens qui interviennent, et puis on essaye d'avoir une cohérence aussi dans la lisibilité du film. Quoi.
Est-ce que vous pourriez nous parler un peu de votre film sur l'agent Citron ? Donc ça a sans doute participé à votre connaissance.
Le gendarme Citron. Le gendarme Citron m'a plutôt perturbé parce qu'en fait, je l'ai fait juste avant celui-ci. Pardon. Et c'était un film sur un personnage extrêmement attachant qui a vécu dans les années 50 en Nouvelle-Calédonie, à Canala et à l'île des Pins, deux lieux emblématiques où il a filmé avec sa petite caméra 8 mm. Et j'ai fait un portrait de ce monsieur presque à la fin de sa vie. Et en fait, j'étais tellement absorbé par ce film que je trouvais très difficile d'enchaîner sur Lorenzo Piano, parce que faire un film sur un bâtiment, ça me faisait un peu peur, parce qu'il faut quand même tenir 52 minutes. Alors bien sûr, il y avait le projet qui était passionnant, il y avait ce centre que je trouve magique, parce que c'est un centre qui est totalement... il ressemble à rien d'autre de ce que je peux connaître, parce que selon les lumières de la journée, les axes, on le voit quand même un peu dans le film, c'est jamais le même centre, c'est jamais le même bâtiment. Alors que quand on voit un bâtiment actuellement, même si c'est Beaubourg, bon, Beaubourg, ça reste Beaubourg, il y a une lumière différente selon les heures de la journée, mais le centre culturel de Shibaou, on peut faire 10 000 photos, ce sera jamais le même centre. Des fois, on a l'impression qu'il est en métal, des fois, on a l'impression que c'est des instruments de musique, enfin, c'est assez magique, quoi. Donc, il y avait ça, il y avait aussi la personnalité de Renzo Piano, j'ai finalement décidé de prendre l'axe un petit peu de Renzo Piano, qui était quand même assez porteur pour le projet. Et puis je voulais pas de commentaires, donc j'ai essayé de faire un film qui se tenait simplement en faisant se répondre les intervenants que j'avais déterminés au fur et à mesure du scénario. Il y en a une douzaine, je crois, qui se répondent et voilà. Donc j'ai peiné un petit peu à concevoir le film. Et puis après, voilà, comme souvent, on trouve les solutions, hein, comme comme pour n'importe quel projet.
Donc Paul, à un moment donné dans le film, on voit Renzo Piano qui parle du vieillissement du bâtiment. Donc on imagine très bien que le bois est devenu, a changé de couleur, il a un aspect presque métallique aujourd'hui. Donc il y a eu un vieillissement dans le temps des matériaux, mais c'est aussi un projet qui a beaucoup évolué dans ce qu'il représente, puisque au départ c'est un projet qui représente un conflit et aujourd'hui qui est devenu le symbole de Nouméa, le symbole de la Nouvelle-Calédonie. Donc est-ce que vous pourriez commenter un peu l'appropriation du bâtiment?
Oui, il faut bien comprendre, évidemment, vous l'avez vu sur ces images, qu'il y a eu une multitude de petites fourmis ouvrières comme moi qui ont travaillé pour construire ce bâtiment, soumis entre autres au cyclone, soumis à des innovations très importantes en matière de bois, de collage de bois et d'acier, etc. Donc c'est une démarche qui a pris pas mal de temps, guidée par Renzo, mais... Ce que je voudrais dire, c'est que tous les gens qui étaient autour, ils avaient le même esprit, c'est-à-dire un esprit de découverte autour d'Alban. Et donc, il y a une équipe qui s'est formée d'ingénieurs, d'architectes, pour arriver à faire cette espèce de symbiose. C'est important parce que on a vu un petit peu William qui était sur place. Et ces gens-là, ils se sont vraiment investis énormément, comme peu de fois on peut le trouver dans des projets. C'est sans doute ce qui permet d'abord de construire, parce que c'était pas si évident de construire. Alors c'est vrai que sur place, on a vu une évolution assez étonnante entre les tensions qu'il y avait au début des études et puis la fin du bâtiment. Pour moi, c'est tout à fait fondamental, parce que petit à petit, grâce entre autres à Marie-Claude et à Octave, grâce au projet un petit peu aussi, il y a eu une appropriation qui s'est faite, et quand on a ouvert le bâtiment... Je racontais qu'il y avait beaucoup d'enfants, d'adolescents qui étaient là le jour même de l'ouverture, et c'était leur maison, un peu comme l'a dit une personne dans le reportage. Mais c'était vraiment leur maison, c'est-à-dire qu'ils étaient chez eux à la première minute de l'ouverture. Et ça, moi, j'ai jamais vu ça. C'est vrai que c'était pour nous extraordinaire. Surtout quand on connaissait toutes les remarques qu'il y avait au début des études, qui étaient d'une violence assez inouïe, où beaucoup de gens voulaient mettre le feu au projet, et d'ailleurs on a dû prendre des mesures un peu particulières pour pouvoir éteindre des incendies s'il y en avait. Je racontais tout à l'heure qu'on a, par exemple, équipé les cases d'espèces d'énormes sprinklers, de tubes comme ça, avec des réserves d'eau très importantes, pour pouvoir noyer chaque case sous une douche d'eau et pouvoir à ce moment-là, très facilement, avec une simple ouverture, éviter tout risque d'incendie sur les cases. C'est ce qu'on appelait le déluge. Donc, alors ça, c'était intéressant parce que c'est évidemment une aventure qui est fabuleuse. Mais entre les premiers jours du projet avec Alban, les idées de Renzo d'ouverture, de respect, d'Octave, de Marie-Claude et tout, et puis la fin et la réception du bâtiment, on a senti cette société qui petit à petit, tout doucement, enfin vous êtes plus compétent que moi pour le dire, mais petit à petit a commencé à se rapprocher. Et pour moi, la plus belle des choses, c'est de voir les enfants qui se retrouvent actuellement par classe une semaine, qui viennent des tribus, qui viennent de Nouméa et qui se retrouvent et qui souvent se connaissaient pas. Donc il y a des enfants blancs, il y a des enfants kanak qui se retrouvent. Parfois même j'en ai vu qui s'étaient jamais vus, enfin qui s'étaient jamais vus, c'est-à-dire des kanak dans les tribus qui avaient vraiment jamais vraiment vu d'enfants blancs, enfin ou très peu. Et ils se retrouvent là au centre, ils sont guidés pour apprendre à se connaître. Et ça, c'est le futur, à mon avis, de la Nouvelle-Calédonie. Et donc on est passé du stade de vouloir mettre le feu en m'expliquant qu'il lancerait une allumette et que tout allait cramer, au stade où il y a ces enfants qui se retrouvent, donc en quoi, en 15 ans. Donc c'est bon, c'est assez fabuleux, quoi.
Donc les projets ont une âme dès le début ou n'en ont pas, se vérifie. Le propos de Renzo Piano se vérifie dans le cas du Centre culturel Djibaou.
Ça, chacun pense ce qu'il veut des projets. C'est vrai que moi, je peux pas dire ça parce que évidemment, je suis très attaché à ce projet. Mais c'est vrai que d'y retourner, par exemple, pour les 10 ans, c'était fabuleux.
Monsieur Bensa, vous pratiquez une anthropologie dite politique qui est très impliquée dans l'histoire contemporaine. Est-ce que vous pourriez développer un peu ce point précis dans votre travail et comment il s'est appliqué dans le cadre du projet de centre culturel ?
Si vous voulez, c'est ce que je dis maintenant de l'anthropologie, mais peut-être que je ne l'aurais pas dit si je n'avais pas travaillé avec l'équipe de Renzo Piano sur ce projet. C'est-à-dire qu'il y a deux sortes d'anthropologie. Il y a une anthropologie qui reconstitue des mondes anciens et qui essaye toujours de nous faire croire que ces mondes anciens se perpétuent presque à l'identique jusqu'à aujourd'hui. Et que si les gens sont un peu différents, c'est parce que les choses ont changé, mais que le fond reste le même. Bon. Et puis il y a une autre anthropologie qui est plutôt ce que Marco Jacques a appelé une anthropologie du contemporain, enfin, qui essaye de prendre en compte les situations effectives dans lesquelles on se trouve et dans lesquelles l'anthropologue se trouve. Alors j'ai pensé, je ne l'ai pas inventé, ça a été dit par d'autres, à insister sur la dimension anthropologie de l'action, parce que justement cette expérience du centre culturel, c'est à la fois faire le bilan de l'héritage kanak et en même temps recapitaliser cet héritage dans la perspective d'un projet de société pour la Nouvelle-Calédonie. Et ça, dans l'équipe, un anthropologue, c'est-à-dire un anthropologue qui n'est pas là pour défendre une identité kanak perdue, mais qui est là simplement pour montrer comment le monde kanak se transforme et entend se transformer, tout en préservant une certaine spécificité dans l'espace mondial, calédonien, pacifique, etc. Donc c'est pour ça que j'ai insisté sur cette idée d'une anthropologie de l'action, une anthropologie dans l'action, une anthropologie par l'action. Et je pense que le fait d'avoir pu travailler avec sur ce projet, ça m'a permis aussi de mieux comprendre la Nouvelle-Calédonie. Il est difficile, par exemple, Marie-Claude Chimbaou parle sa langue, le païtien, celle que je connais un peu aussi. Elle a son chandiniam, elle a ses réseaux de parenté, elle est repartie pour un deuil dans sa famille. Octave Tonia, qui est lui originaire du sud de Nouméa, parle une autre langue, il est porte-parole dans une chefferie, etc. C'est-à-dire que ces gens ont des positions sociales et politiques et des responsabilités à l'intérieur de leur propre univers. Et en même temps, voilà, ils dialoguent avec Renzo Piano, ils contribuent à la construction d'un centre, etc. Et c'est ça que je qui me paraît important, c'est montrer comment les gens sont les acteurs de leur propre identité, pas simplement les réceptacles d'une identité ancienne dont ils seraient les fossiles. Hein. Et quand Jean-Marie Thibaou dit notre identité est devant nous, c'est-à-dire que nous devons la construire. Quoi. C'est quelque chose, c'est un processus et non pas simplement la reduplication de quelque chose d'antérieur qui devrait se répéter ad vitam aeternam. Voilà, donc c'est cette idée d'une anthropologie de l'action et d'une critique un peu d'une anthropologie passéiste, elle m'est venue en partie, enfin beaucoup des événements qui ont surgi en Nouvelle-Calédonie et beaucoup aussi de cette expérience du centre culturel qui était pour moi un moyen de prolonger l'engagement militant auprès des Kanaks par un acte positif. Quand vous êtes en train de protester, quand vous revendiquez, c'est nécessaire, c'est absolument nécessaire. Mais une fois que ce stade, miraculeusement, grâce à Michel Rocard, etc., a été franchi en Nouvelle-Calédonie, on pouvait passer à quelque chose de positif. Essayer de construire quelque chose, grâce aussi à la fleur, etc. Cet accord, c'est complètement miraculeux. Hein. Tous les jours, je me dis que, en principe, ça n'aurait jamais dû se terminer comme ça. Partout dans le monde, ça se termine mal. Et là, je ne sais pas pourquoi, il y a eu un miracle, les ancêtres kanaks qui nous ont bénis, je ne sais pas, mais on est arrivé à une plateforme qui permet à la Nouvelle-Calédonie d'envisager un avenir autour de ce que l'accord de Nouméa appelait un destin commun. Je terminerai là-dessus, il faut quand même rappeler que à l'inauguration du centre en 1998, on y voit Lionel Jospin, Michel Rocard, etc., et c'est là qu'a été signé l'accord dit de Nouméa, qui propose à tous les Calédoniens de travailler ensemble à la construction d'un destin commun. Et c'est juste au moment de l'inauguration du centre. Si vous voulez, il y a la fabrication du centre, ou l'imagination du centre, sa conception de 89 à 98, finalement, elle a débouché aussi sur l'accord de Nouméa. Et je crois que la dimension architecturale et la dimension politique, et donc la dimension de l'action de tous les acteurs qui ont contribué à l'édification de ce centre se trouve lié. Là, il y a quelque chose de un symbole très 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 fort. Et l'inauguration a lieu. Alors, on est, je ne sais pas si vous l'avez fait exprès, mais enfin, on est en une date anniversaire aujourd'hui. Hein. C'est l'anniversaire de la mort de Jean-Marie Thibaou en 89, et c'est l'anniversaire de la signature de l'accord de Nouméa. Alors, des 22 ans maintenant, si vous voulez, de l'accord de Nouméa. Et donc, c'est une date importante. Voilà.
Gilles Dagneau, est-ce que vous pourriez nous raconter un peu votre découverte du bâtiment ? Vous avez filmé, vous avez travaillé avec des images d'archives. Est-ce que vous pourriez nous raconter un peu vos impressions ?
Ben, j'en ai un peu parlé tout à l'heure. Les images d'archives, en fait, la DCK nous avait demandé... à Pierre Vachet, qui est un cadreur avec lequel je travaille souvent, un ami également, de suivre la construction du centre culturel. Donc en fait, le film, finalement, on l'a commencé pendant la construction, quoi, en 1996-97. Donc c'est à cette occasion qu'on les a... Puisque c'était des images quasiment inédites qu'on n'avait jamais montrées, voilà. Mon impression sur ce centre, ben, je l'ai dit tout à l'heure, hein, c'est que c'est un centre qui n'est jamais le même. Mais ce qui est intéressant ce qu'il a de particulier, c'est que c'est finalement un projet à la fois architectural, ethnographique et politique. Donc ça, c'était vraiment très passionnant. Et donc j'ai axé le film sur ces trois entités-là.
Dans le film est évoquée également l'importance de la culture du geste dans la culture kanak, de la répétition. Or, chez nous en Europe, c'est la culture plutôt de la temporalité. Comment est-ce que Renzo Piano a-t-il adapté cette idée-là dans le centre culturel ?
Je peux plutôt vous répondre sur une autre chose qui m'intéresse dans ce que vous dites, c'est comment on peut, à partir d'une image un peu confuse comme celle du concours, où il y a une multitude de cases sur le site, essayer de mettre de l'ordre dans ses idées. Ce qui revient pas tout à fait au même, mais c'est intéressant. L'autre jour, je suis allé voir tous les dessins depuis le concours, les esquisses du concours jusqu'à la construction du centre. Et c'est assez étonnant de voir, d'ailleurs, le rôle de Renzo, très clair, qui petit à petit, au fur et à mesure, donc il y a 300-400 dessins clés, qui petit à petit met de l'ordre dans la façon de construire le projet et quelque part de le rendre constructible. Bon, et c'est là que les fourmis ouvrières aussi interviennent, mais c'est assez passionnant. Si vous avez vu, on a vu les images de la maquette du concours, on a vu une multitude de cases éparpillées, qui était une façon de construire en fait dans la clairière et d'occuper le terrain. Ce qui voulait d'ailleurs dire que on modifiait totalement le programme du concours, ce qui voulait dire aussi qu'il y avait un jury très intelligent, avec entre autres Glenn Murcutt dedans, une mission des grands travaux remarquable, des gens à la mission des grands travaux de Mitterrand extrêmement efficaces et respectueux, Pierre Culan qui était là aussi, pour mettre de l'huile dans tous les rouages. Enfin, un bon projet se fait avec un bon maître d'ouvrage, ça c'est clair, et c'était un niveau de compétence assez extraordinaire. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a une évolution entre ces images du concours que tu as vues et puis la réalisation, qui a été tout bêtement de clarifier les choses, de donner une hiérarchie aux choses, et de commencer à les rendre constructibles, modulaires, articulés, mais de façon à ce qu'on puisse trouver des entreprises et réaliser dans le cadre du budget qui avait été donné, qui était d'ailleurs plus élevé sans doute que ce que souhaitait l'État. Donc ça, c'est une idée qui est assez fondamentale, puisque on voit un bâtiment qui paraît simple comme ça, courbé, mais en fait, il est extrêmement modulaire et, à mon avis, assez intelligent. Je voudrais vous donner quelques exemples. Par exemple, Octave ne savait pas comment utiliser tout à fait les cases, puisqu'il ne comprenait pas bien quelle partie il fallait vitrer, quelle partie il fallait rendre opaque, quelle partie il fallait mettre en vitrine, où allaient être les espaces muséographiques. On a traîné ça pendant une partie du chantier. Du coup, on a rendu tous les panneaux intérieurs des cases modulaires, ils étaient interchangeables. Comme ça, avec Marie-Claude, ils ont pu décider, avec l'aide d'Alban, on a pu décider au dernier moment exactement de la composition des panneaux. Et tout est fait dans cet esprit-là. On voit trois cases de trois hauteurs différentes, mais en fait, elles sont tramées dans leur rapport avec l'entrée dont tu parlais, où effectivement, on se baisse un petit peu pour rentrer. Mais il y a trois trames d'un mètre 80, quatre trames d'un mètre 80, cinq trames d'un mètre 80. En fait, on a une impression, si vous voulez, que ce projet, il est un peu fou comme ça, il vient s'inscrire dans la clairière, parce qu'on n'a pas touché aux arbres qui existaient, mais en vérité, il est extrêmement construit, et ça n'aurait pas été possible de faire autrement pour nous, pour Enzo, ça n'aurait pas été possible, je pense aussi, pour les entreprises, pour respecter le budget, quoi.
Cette simplicité, c'est sa force aussi, parce que quand on le voit aujourd'hui, on a l'impression que ça ne pouvait pas être trop chose, quoi. C'est ça qui me frappe.
Ouais.
Et Jacques Laffer, que j'ai interviewé là, m'a dit hors caméra, malheureusement, il n'a pas voulu répéter devant la caméra, ce qui m'a déplu, parce qu'il a eu une phrase merveilleuse, et du coup, j'ai été obligé de mettre une phrase que j'aime pas trop dans le film, parce qu'il y a encore, parfois, dans ses anciens, enfin, dans ses relations, il y a encore des gens pour contester un peu le centre, et il leur dit, je leur dis la chose suivante, regardez la presqu'île de Tina, aujourd'hui, s'il n'y avait pas ce centre, il manquerait quelque chose. Formidable. On tourne. Moteur, il n'a jamais voulu me la redire. Et je trouvais ça magique, parce que pour un homme politique, c'était pas le discours, comment dire, habituel auquel on... il avait eu une image vraiment très très belle. Je ne sais pas pour quelle raison, il n'a pas voulu me le répéter, mais voilà, c'est ça. C'est pour dire que c'est évident ce centre, c'est une espèce d'évidence, quoi. Et puis c'est tellement simple, on se dit pourquoi on n'y a pas pensé plus tôt, nous on aurait pu le faire, il suffit de faire ça. Non, c'est vrai, mais je crois que c'est ça la force d'un objet artistique, quoi, quel qu'il soit.
Et dans le film, on voit des images assez extraordinaires, donc la silhouette du bâtiment dans la nuit, comment ça s'est passé ce travail-là, ce travail d'insertion dans le paysage. Parce qu'il y a une grande importance du paysage dans la culture kanak. Ça, peut-être que M. Bensa peut nous expliquer un peu ce rapport à la nature dans la culture kanak et qui a été traduite à travers le bâtiment.
Oui, dans le Pacifique, en Océanie, il n'existait pas de bâtiment en pierre, sauf les marais, les quelques plateformes et quelques constructions monumentales en Polynésie. Mais sinon... tous les bâtiments sont en bois, en liane, en herbe, etc. Et donc, l'emprise de la végétation est extrêmement forte. Les gens, ils essartaient, ils pratiquaient la culture sur brûlis, ils se déplaçaient de temps en temps quand la terre n'était plus assez bonne pour cultiver leurs ignames. Et donc, ils étaient pris comme ça dans un écrin de végétation, tout en s'efforçant de cultiver des plantes précises, de se protéger, de cultiver des tarots dans les terrains humides, des ignames dans les terrains secs, etc. Donc il y a tout un usage de l'espace extrêmement attentif, extrêmement dont on prend soin, si vous voulez. Et ça, Renzo Piano l'a tout de suite perçu. Hein, on n'est pas à Rome, il le dit d'ailleurs. On n'est pas dans la pierre, on n'est pas. Dans une civilisation du végétal. Hein, et il fallait absolument essayer de maintenir, de retrouver cette dimension dans le centre culturel. Alors, on y était aidé, parce que cet endroit-là, la presqu'île de Tina, a été occupé depuis des millénaires. Hein. Les premiers Kanaks sont arrivés 2000 ans avant Jésus-Christ. C'était les premiers, c'est eux qui ont découvert la Nouvelle-Calédonie, c'est pas le capitaine Cook, c'est eux, à cette époque-là. Et donc, il y avait des vestiges archéologiques, des traces de poterie, des traces d'habitat, donc c'était un endroit habité autrefois. Et même si personne ne l'a connu habité. Et donc Renzo Piano a tout de suite a dit bon, on va éliminer le moins possible de plantes. On va essayer de garder le fond végétal qui existe et on va l'enrichir et on va enchasser le centre culturel dedans. Et effectivement, c'est réussi et c'était un gage de reconnaissance pour les Kanaks. Il fallait que ce paysage soit lisible pour les Kanaks, ce qui supposait une très grande conversion de notre propre regard occidental, où, et notamment les jardins à la française, vous voyez, on taille, on range, etc. Là, il fallait trouver le rythme de pensée des Kanaks en ce qui concerne le monde végétal. Et là encore, Renzo Piano a su trouver l'équilibre architectural pour le faire. Et ce qu'a rappelé Paul Vincent tout à l'heure est très important, c'est qu'il a su le trouver tout en gardant un rythme au bâtiment. C'est-à-dire, il ne s'agissait pas de construire des petites cabanes dans la forêt. Hein. Il s'agissait aussi de faire un grand bâtiment public et de lui trouver un rythme, c'est-à-dire des dimensions qui soient régulières, un calage du jardin sur le bâtiment et du bâtiment sur le jardin. Et je sais qu'à un moment où on travaillait sur ce chemin Kanak, avec l'équipe, on avait fait des propositions qui oubliaient le bâtiment, par exemple. Renzo Piano m'a dit, mais c'est très bien, mais là, tu me fais un jardin botanique exotique. Mais moi, c'est pas ça que je veux. Je veux que l'espace du arboré fasse partie du bâtiment. Qu'il soit pas simplement un écrin ou une enveloppe ou un coffret pour mettre le bâtiment, mais que les deux choses dialoguent. Alors, il y a des effets de transparence, il y a le fait que le bâtiment soit lui-même en bois et qu'il a quelque chose de profondément végétal, il y a quelque chose de l'ossature, il y a quelque chose du végétal, il y a quelque chose de profondément naturel dans ce bâtiment, ce qui fait dire à Jacques Lafleur que finalement c'est comme s'il avait toujours été là. Mais il y a une grande maîtrise presque classique. Le bâtiment n'est pas baroque. Hein, ça part pas dans tous les sens. Il y a une sorte de ligne qui est maintenue. Et je dois dire, moi, je n'avais pas beaucoup d'expérience, pas du tout, d'ailleurs, en architecture. Ce qui me frappait dans la façon dont Renzo Piano intervenait sur notre travail, il venait de temps en temps, et à chaque fois, il repensait le bâtiment dans une logique très structurée. Et il nous évitait, parce que vous êtes toujours tenté, ah ben là, on va rajouter un escalier, là, on va passer par là, là. Et puis, le bâtiment, il devient de plus en plus chargé, si vous voulez. Et lui, il nous ramenait sans arrêt à un effort de simplification, de purification, quasiment, de même que les cases, par exemple. Au début, vous avez peut-être rapidement vu dans un plan la maquette du concours, il y en avait dans tous les sens, il y avait des allées qui se croisaient, il y en avait 24, je crois, quelque chose comme ça. Et un jour, Renzo a dit, écoutez, puisque le vent, lui, vient toujours du même côté, on n'a qu'à mettre toutes les cases, le dos tourné du côté des alizés du sud-est, et du coup, on pourra d'ailleurs récupérer cette ventilation, etc. Et à ce moment-là, là, il y a un effet de purification, de simplification, de rationalisation qui est magique, si vous voulez, hein, qui permet à la fois de préserver Et c'est vrai que les allées Kanak aussi sont assez pures, sont très bien tracées. Donc il y a un tracé qu'il a retrouvé, qu'il a maintenu, qu'il a su aussi maintenir, alors qu'on avait tendance à l'oublier en travaillant sur les détails de l'architecture.
Finalement, c'est la contrainte technique qu'il a.
Oui, mais je pense qu'un grand architecte ne doit jamais oublier la contrainte technique.
Ouais. En fait, les vents sont dominants à 95%. Ce qui est très pratique pour faire des bâtiments en ventilation naturelle. On avait rêvé au moment du concours, capturer le vent avec des cases plus grandes, le faire passer dans l'allée et le faire ressortir, quoi. Et jouer évidemment avec les pressions, les dépressions. Et puis en fait, avec le travail avec AREUP au début, avec le CSTB à Nantes, on s'est aperçu qu'il fallait choisir un côté. Soit on était opposé au vent, soit on était face au vent, mais c'était beaucoup trop compliqué ce qu'on avait imaginé. Donc Renzo a choisi de se mettre opposé au vent. Et alors là, il y a eu un gros travail en ventilation naturelle, puisqu'en fait, on voit sur les photos que les cases sont constituées de deux pots. Donc le vent rentre dans la case, disons dans les brises-soleil de la case, qui ont des densités variables, mais en fonction de l'efficacité de ce système de ventilation naturelle. Et on vient, en quelque sorte, épouser les côtés de la case. Et puis il y a une partie du vent qui rentre à l'intérieur de la case, grâce à ces lames de verre qui sont motorisées. Elles sont asservies à une commande qui calcule la vitesse du vent pour qu'on ait le maximum de confort. Et ce vent ensuite traverse l'allée et ressort dans un patio qui a été dessiné avec Béalo et avec Sophie de l'agence. Ce qui est assez étonnant, c'est que malheureusement certains espaces sont climatisés. Et on s'aperçoit que tous les espaces qui sont en ventilation naturelle sont beaucoup, beaucoup plus confortables. Je dirais 2 jours par an, peut-être on a un inconfort, mais sinon il n'y a pas de comparaison possible.
Et outre l'utilisation du vent pour la ventilation, il y a également un aspect sonore. Est-ce que l'un d'entre vous peut en parler? Parce que ça n'apparaît pas dans le film. Donc la manière dont le vent traverse le bâtiment crée un son.
Alors c'est vrai qu'avec une... Alors après, il y a Renzo qui en rajoute un peu, mais c'est vrai qu'avec une certaine vitesse de vent, le bâtiment chante un peu. Mais ça, il aime bien la métaphore de l'instrument de musique, mais...
Il chantait pas assez fort, j'ai pas pu l'utiliser dans le film, donc j'ai quand même fait faire une musique pour...
Mais vous confirmez, le bâtiment chante.
Oui, il chante. Oui.
Il y a peu de temps, Renzo Piano a publié un livre qui porte le titre « La désobéissance de l'architecte ». Alors, la désobéissance de l'architecte, elle est où dans le centre culturel Djibaou? Donc, tout à l'heure, à un moment donné dans le film, était évoquée la question d'un pilier central dans une case. Et lui, il dit « Mais non, aujourd'hui, c'est la démocratie, on élimine ce poteau central ». Et il y a également la question, en fait, lui interprète la case Kanak. Et donc, quand les Kanaks viennent pour la première fois sur le site, elle n'est pas terminée, c'est une moitié de case. Donc, est-ce que c'est ça, la désobéissance de l'architecte, selon vous, est-ce que ce serait ça? Est-ce que Renzo s'est montré particulièrement opiniâtre pour se tenir à ses décisions architectoniques qui font l'intégrité, sans doute pour lui, du projet?
Oui, je pense qu'il est sur... Ce qui est au centre du film, la question du volume des cases, de leur rotondité, du poteau, etc., ça a été un point d'accrochage, ça a duré longtemps, 6-8 mois, enfin, ça n'a pas été rien du tout. Et là, il y avait vraiment un débat de fond. Soit Octave Tonia, et un peu Marie-Claude, mais surtout Octave Tonia, ne reconnaissait pas la case Kanak telle qu'elle existe dans sa chefferie du Sud, là, à Saint-Louis. On était allé voir, d'ailleurs, ils étaient en train d'en construire une, etc. Et il ne voulait pas que ce soit une case trop piano. Enfin, et il voulait qu'elle soit plus Kanak que piano. Et piano, il voulait trouver un juste milieu. Et là, ils se sont véritablement accrochés autour de cette idée. Et il y allait, évidemment, de toute la signification du centre. Alors, c'est sûr que Renzo Piano, je crois, à un moment, il a parlé, alors il aime bien, il euphémise un petit peu, il a parlé de mémoire de case, de souvenir de case, etc., de l'identité devant nous, il met bien toutes ces phrases-là, mais ce qu'il voulait, c'est ne pas être emprisonné dans une image archaïque du monde Kanak. Il voulait pas refaire une case Kanak. Ça n'intéressait pas. Donc, il fallait qu'il s'inspire de cette civilisation, mais qui, à partir de ce motif, Hein, il brode autre chose. Hein, et à la confluence, évidemment, de son expérience architecturale et de sa sensibilité architecturale. Je pense qu'un autre architecte aurait, lui, il a toujours insisté sur les tubulures, il le dit, hein, la légèreté, la transparence, les matériaux nobles, là, comme le bois, bon, etc. Et il a brodé sa propre mélodie sur un rythme kanak au départ, si vous voulez. Mais c'est vrai que ça a été quand même un enjeu à la fois esthétique et politique important qu'il a fallu tenir. Et je pense que pour Renzo, ça n'a pas été toujours facile parce que lui-même avait des doutes. Hein, je crois que là, Paul peut en parler. Il avait des doutes sur l'issue de cette affaire. Hein, il se demandait où est-ce qu'il allait. Je sais qu'à un moment, on avait déjeuné ensemble à Nouméa, il m'a dit « j'ai un peu peur, là, je ne sais plus très bien ». Il dit « peut-être qu'on va arrêter ». Enfin, on est passé par toutes les phases de l'arc-en-ciel hein, dans cette histoire.
Tu m'avais dit aussi, peut-être ouais. Paul pourra confirmer, ouais. Que certainement c'est un projet à part dans tout ce qu'il a fait, que sans doute il ne souhaitera pas ou ne souhaiterait pas reconstruire ailleurs dans un pays peut-être.
C'est ce qu'il m'avait dit un jour, il m'avait dit « j'ai fait ça, ça va ».
Encore qu'il a eu des projets, je crois, en Afrique, mais...
On a eu en fait trois conflits sur la case. On a eu, si vous voulez, le fait que la case était... Alors une demi-case, c'était pas tout à fait arrivé, mais plus ou moins courbe. Sauf que là, on avait un vrai problème technique avec les cyclones. C'est qu'évidemment, plus on s'approchait du cylindre et plus on avait de facilité à résister au vent à 250 km/h, enfin, au niveau structurel. Donc ça, c'est le premier point dont on en a parlé. Le deuxième point, c'était en fait... que évidemment plus cette case se fermait et plus elle se rapprochait de la case ancienne et devenait moins contemporaine. Et donc là, on a fait à l'agence des maquettes où on arrivait à glisser dans des maquettes en bois des formes de courbure des arcs différentes. Parce que nous, on en avait un petit peu marre de pas arriver à trancher, si vous voulez, parce qu'il fallait quand même avancer. Donc on a fait des maquettes qui permettaient de faire varier les formes pour que Octave et Renzo arrivent enfin à se mettre d'accord. Et puis on est arrivé à un compromis où il y a une certaine verticalité, mais pas trop quand même. Donc ça, c'était assez intéressant. Et puis il y a eu un troisième conflit que je sais pas si tu t'en souviens, mais qui était presque le plus grave. C'était qu'en fait, il y avait un problème de représentation des maquettes. Et au début, quand on est arrivé à avoir, on avait réglé ce problème de courbure et on avait réglé ce problème de verticalité, on a sorti une maquette où la peau intérieure, c'était dans une case muséographique, était très opaque et continue. Et là, Octave, il est arrivé, il a dit « Mais j'ai compris, vous vous mettez en prison ». Et je ne sais pas si tu te souviens, Pierre. Et là, il y a eu un os parce que, en fait, c'était... Il fallait faire marche arrière. Donc, en fait, on a reconstruit cette maquette autrement. En fait, c'était la même, pratiquement. Mais on a fait ressortir les arcs. Et puis, on a montré cette modularité des panneaux qui pouvaient être vitrés, qui pouvaient être opaques. Mais c'était plus un problème de représentation graphique. C'était d'ailleurs assez intéressant parce que, en fait, je pense qu'on s'était trompé, effectivement, dans la représentation, puisque quelque part, ça ressemblait trop à un tonneau, si je peux dire vulgairement, mais à quelque chose de fermé. Or, il avait besoin de s'ouvrir sur la nature. Et donc, on a été obligé de faire attention à la façon dont on représentait les documents, parce que parfois, effectivement, on n'était pas bon, quoi.
On va peut-être vous proposer de prendre un peu la parole, donc pour lancer le débat dans le public. Peut-être que monsieur, vous avez votre expérience de la Nouvelle-Calédonie à nous faire partager.
Juste pour reprendre le dernier exemple de la difficulté du dialogue, parce qu'on a l'impression que les choses ont été un sentier sur terrain plat, et le sentier kanak est plutôt un sentier rocailleux et complexe. Déjà, on part sur le projet. Michel Rocard explique qu'il y a l'argent. En fait, l'argent, il est pour le concours. Et puis, on passe un an à travailler avec vous, sans savoir exactement le montant qui sera le montant final de l'enveloppe du projet. Et je me rappelle d'une délégation faite avec Marie-Claude et Alban. Je ne sais plus si tu étais là et Octave, auprès de Bérégovoy, pour essayer de faire signer un bleu de Matignon qui fixe pour définitivement l'argent du projet. Ce qui veut dire que pendant tous les temps du dialogue avec vous, il y avait aussi ce dialogue très particulier. Est-ce que l'État va tenir sa parole? Est-ce que l'État va aller jusqu'au bout? Et nombre des conflits sur le nombre de cases, sur la forme des cases, étaient aussi ces conflits à un moment donné de est-ce que vous serez, vous irez, est-ce que vous ne nous menez pas en bateau? La souplesse, la ductilité de Renzo pendant les deux premières années inquiétait énormément Octave Tognat. C'était pas son mode de dialogue, c'était pas le mode de dialogue syndical qu'il avait l'habitude de pratiquer à la SLN. C'est cette période initiale aussi d'adéquation programme-projet, hein, qui est quelque chose de d'une période où on a une chance absolument fantastique. C'est aussi une période d'apprentissage. C'est-à-dire que tout ce que vous évoquez sur la forme architecturale de la case, on pourrait le dire aussi sur la forme culturelle du dialogue qui s'établissait avec Octave, Marie-Claude, sur ce que devait être le contenu culturel de ce bâtiment dont on ne pouvait pas, à un moment donné, séparer la discussion de la forme du fond. Au démarrage, était à côté d'Octave et de Marie-Claude quelqu'un qui les conseillait plutôt sur une orientation, je dirais, très socio-culturelle. Le petit centre de rencontre, qui était un petit peu le centre de Yengen, qui était à côté. Et puis, progressivement, par l'intelligence d'Octave, hein, par cette intelligence absolument fabuleuse d'Octave dans l'apprentissage de son métier de culturel, avec aussi l'intelligence de Marie-Claude de ce qu'était cette approche, le contenu progressif a permis aussi, dans ce dialogue avec l'architecte, que le contenu culturel évolue aussi profondément. Parce que le dialogue sur la forme a été pour très formateur, je pense, pour Marie-Claude et pour Octave.
Alors, à propos d'Octave Tognat, à un moment donné dans le film, il dit « Oui, Renzo Piano est latin, mais il est architecte. » Il affirme assez fort. J'aimerais, Louise et Philippot, donc Louise Lemoine et Ila Becca, qui sont deux jeunes réalisateurs qui ont réalisé les films qui sont diffusés dans l'exposition Renzo Piano Réponse. Donc vous, votre impression, est-ce que Renzo Piano n'est qu'un architecte?
La réplique était très drôle dans ce contexte-là, à mon avis, souligne beaucoup le problème de dialogue culturel qu'il y a eu dans tout au long du projet, c'est-à-dire de trouver un point d'entente entre les enjeux d'un architecte et le besoin d'identification et de projection de la culture kanak pour à la fois trouver quelque chose qui leur ressemble et quelque chose qui puisse satisfaire aussi l'intérêt de Renzo Piano. Enfin, et cette question-là, elle me fait réagir sur... est-ce qu'à un moment donné, on aurait pensé que les kanaks auraient pu construire eux-mêmes leur centre culturel sans faire appel à des architectes occidentaux?
Qui souhaite réagir? Monsieur Bensa, peut-être?
Oui. Bon, à cette époque, il n'y avait pas beaucoup d'architectes kanak. Enfin, il y en avait un.
Moi, Océania, je crois qu'Octave il défendait un projet océanien.
Octave défendait un projet hawaïen, enfin polynésien. La Nouvelle-Calédonie, dans son ensemble, là, toute communauté confondue, n'avait pas une très grande expérience de l'architecture mondiale et n'avait jamais été confrontée à un architecte de l'envergure de Renzo Piano, même s'il y a eu des réalisations tout à fait honorables en Nouvelle-Calédonie. Hein. Donc, il y avait eu une première tentative du vivant de Jean-Marie Chimbaou qui avait fait construire en 85 un centre culturel à Yengen, dans la commune dont il était maire. Ce sont trois cases dont les toits sont en tôle, qui évoquent vaguement la case. Et puis bon, mais c'est un espace qui fonctionne par ailleurs. Donc là, on passait dans une dimension impressionnante, hein, qui était complètement nouvelle pour et notamment pour Octave Tonia. On ne l'a pas dit dans le film, enfin Octave Tonia, Gilles me tend la perche pour le dire, mais il n'était pas favorable à ce projet, parce qu'il me l'a dit, je ne comprenais rien. Il ne voyait pas sur la maquette, les plans, et ça lui faisait peur. En plus, ce que Pierre Culan vient de rappeler est très très important, la maîtrise d'ouvrage, donc l'agence culturelle Kanak, au sortir des événements, avaient quand même en tête qu'ils allaient une fois de plus se faire rouler. La parole de l'État français n'avait pas été très honorable pendant les 150 ans de colonisation précédente. Donc,
l'exemple de
Corée-Cara. Oui, voilà. Voilà, par Bernard Ponce. Voilà, donc si vous voulez, on avait quand même, même moi aussi, hein, j'avais peur. Je me disais, si on met la barre trop haut, on va rien avoir. Il va rien se passer. Et il a fallu qu'il y ait la constitution autour du Renzo Piano Building Workshop, de la DCK, d'un collectif comprenant des hauts fonctionnaires, des politiques de gauche puis de droite, des techniciens, des entrepreneurs, etc., pour que le projet arrive au bout. Si tous ces gens n'avaient pas été convaincus qu'ils travaillaient à quelque chose d'une certaine manière qui les dépassait, s'il n'y avait pas eu cet enjeu politique immense, qui nous paraissait immense, en tous les cas pour la Nouvelle-Calédonie, certainement ça ne serait pas fait. Alors, c'est vrai que les Kanaks auraient pu, ils savent construire des choses dans leurs propres espaces, mais pas un bâtiment public. Surtout que comment construire un bâtiment public quand vous n'avez jamais eu le pouvoir ? Là, c'était une expérience nouvelle, c'était une expérience du pouvoir. Et Pierre Culan a bien rappelé que Octave Tonia a dû se hisser à la hauteur de la fonction qu'on lui avait donnée. Lui, militant, ancien ouvrier du nickel, syndicaliste, etc. Et il y avait presque un rapport de classe entre lui et nous à certains moments. Et il fallait surmonter toutes ces difficultés, toutes ces rancœurs aussi, pour pouvoir arriver à un geste architectural un peu de réconciliation. Alors, bien sûr, je pense que les Kanaks ont une technique architecturale qui continue à construire des cases, etc. Mais là, on passait du local au global. Hein. On passait dans une autre narration. Il fallait presque apprendre un autre langage architectural qui n'était ni l'italien ni une langue kanak, mais qui était un espéranto tout à fait original que tout le monde a dû apprendre. Et c'est vrai que de ce point de vue-là, c'est pour ça qu'on en parle avec une espèce d'émotion ou de passion. On a quand même le sentiment, enfin moi j'ai le sentiment en tous les cas, d'avoir participé à quelque chose d'absolument extraordinaire. Et dont je m'étonne à chaque fois que je retourne dans le sens, je m'étonne qu'on ait réussi à le construire. Tout tendait à ce que ça ne marche pas, en fait. Et quand il y a eu le passage, l'arrivée de Balladur, le passage à la cohabitation, la première cohabitation, etc., on avait vraiment très très peur. Hein. On ne savait. Et en fait, ça s'est relativement bien passé. Même, oui, ça s'est passé. Ça s'est passé. Et puis il y a eu des indications qui nous ont été faites, enfin, notamment sur les usages du centre. Ça va parce que l'agence culturelle Kanak, quand on leur disait mais qu'est-ce que vous allez faire dans le centre ? Ah non, alors là. Vous nous laissez tranquille, on n'a pas à vous parler du contenu, ça ce sera nous, etc. Alors Renzo me disait, il faudrait quand même que tu leur demandes, parce que moi je veux bien qu'on soit un bâtiment, mais si je ne sais pas ce qu'on va faire dedans. Finalement, c'est l'équipe Balladur qui a obtenu une réponse de la DCK, hein, en les sommant de donner une réponse. Et c'est là qu'a été inventée l'idée d'en faire un musée d'art contemporain kanak, un fonds régional d'art océanien contemporain, enfin voilà, et donc on a fini par trouver un peu les fonctions du centre. Parce qu'on en voyait bien la fonction politique, mais du coup, on avait oublié les fonctions pratiques qu'il pouvait avoir. Hein. Est-ce qu'on allait faire une médiathèque ? Est-ce qu'on allait faire une salle de danse ? On a failli faire une salle de danse avec des bars pour danser avec des tutus. Hein. C'était une proposition. Il fallait y travailler toute une journée pour dissuader. Bon, voilà, etc. etc. Et donc, voilà. Alors, pour répondre à cette question... C'est sûr que l'art architectural et du paysage kanak existe toujours, qui peut être mis en œuvre à certains moments, mais que là, on était dans un projet politique qui allait au-delà des savoirs de chacun, finalement.
Oui, par rapport à ça, d'abord, le programme du concours, évidemment, c'était fait comme un bâtiment traditionnel métropolitain, c'est-à-dire une boîte, enfin... Donc, heureusement, le jury a accepté que ce programme soit complètement explosé. La deuxième chose, c'est comme on avait nous-mêmes peur de ne pas arriver à construire le bâtiment, en tout cas qu'il n'y ait pas le budget, je pense qu'on a été la seule équipe qui a annoncé le coût de construction, et on l'a respecté, mais ce coût de construction était certainement plus élevé que l'enveloppe qui était prévue. Et puis après, ben, ce qu'on a tenu, c'est qu'à partir du moment où on avait été choisi, c'est qu'effectivement... l'État respecte son choix puisqu'on leur avait annoncé ce coût. Et ce qui était intéressant dans ce que tu disais dans les évolutions du programme, parce qu'il existait, mais il a effectivement pas mal bougé, c'est comme le bâtiment était finalement tout à fait modulaire, ben on a rajouté des trames, on a enlevé des trames, on a pris des... Il y a un seul moment clé quand même, c'est quand Octave a dit « je vous préviens », il y aura deux chiffres dans le nombre de cases. Donc là, ça s'est arrêté à 10 parce que 9, il n'en était pas question. Là, il nous igouillait tous parce que là, on ne pouvait pas descendre. Mais parce que il fallait du terrain entre les cases pour que la nature elle vienne s'immiscer, donc entre les villages, ce qu'on appelait les villages. Et donc, on s'est arrêté à 10. Mais cette modularité était très pratique, effectivement, pour pouvoir faire varier le programme. Et au niveau des coûts, moi, je me souviens juste d'une chose assez étonnante. C'est quand on t'a envoyé Alban aller donner un cours sur la Nouvelle-Calédonie au ministère des Finances à Bercy, où tu es revenu assez sidéré, puisque tu as passé, je ne sais plus, 4 heures à expliquer à des énarques, polytechniciens, enfin tout le gratin des jeunes qui étaient là, ce que c'était que la Nouvelle-Calédonie, un kanak, qu'est-ce que c'est qu'un kanak, qu'est-ce que c'est que ce projet, qu'est-ce que c'est que... Enfin, ça t'est revenu quand même, t'étais... Mais enfin, ça a marché, mais ça a été difficile, ça, je crois.
Mais je pense que c'était peut-être finalement enfin, plus simple aussi. Alors, d'abord, le centre culturel, c'est comme le dit Wallace Cotra, c'est quand même aussi un geste de la France. Donc c'est une histoire de réconciliation, il faut que ça vienne de la France. Et c'était sans doute plus simple de le confier à un architecte extérieur au Kanak. Parce que quand vous parlez des Kanaks, en fait, il faut rappeler que c'est toujours une société quand même assez éclatée à la base, avec 8 aires linguistiques, 32 langues. Chaque région a sa façon de même si la case est l'emblème de la Calédonie, c'est quand même des gens qui ont été en conflit pendant des siècles et des siècles entre eux. C'était beaucoup de luttes tribales. Jean-Marie Tchibaou s'est employé à créer l'unité du peuple kanak. Il a quand même été assassiné par l'un des siens. Donc il y a beaucoup de rivalités qui demeuraient encore, qui demeurent sans doute. D'ailleurs, il y a toujours des conflits anciens qui sont jamais résolus. Donc finalement, le fait de choisir quelqu'un de l'extérieur... comme les Kanaks eux-mêmes choisissent parfois un chef emblématique extérieur à leur région, et même parfois de l'étranger, et même, je crois, hein, des Anglais qui ont été à la tête d'une chefferie, parce qu'on le met là, c'est un symbole, il vient de l'extérieur, et tout le monde se réunit autour de lui. Mais c'est les clans, après, qui décident. Et là, Marie-Claude et Octave Tonia ont joué ce rôle, ils ont participé, ils étaient les représentants des Kanaks par leur position sociale dans la société Kanak. Mais je crois, enfin, je ne sais pas, tu me contrediras peut-être ou pas, je pense pas que ça aurait été vraiment beaucoup, beaucoup plus compliqué, je pense. Ça a été déjà très compliqué.
Est-ce qu'il y a des réactions dans la salle ? Donc, manifestement, il y a des étudiants qui sont présents et qui sont originaires de Calédonie. Donc, peut-être ont-ils envie de réagir, de poser des questions ? C'est pas une obligation, c'est juste une invitation. Question.
Allô. C'est bon ? Ça marche ?
Allez-y.
Oui, bonsoir, Jean-Emmanuel Franz. On m'a demandé de me présenter. Alors, donc, moi, j'avais une question, hein, pas trop claire. Mais est-ce que cet exemple, quoi, de monumentalité, 12 ans après, assez innovante, on l'a vu dans le film, dans sa manière d'associer le lieu, les personnes, garantes ou dépositaires quoi, d'un nom, d'une terre ou même d'une culture. Et derrière ça, un architecte de réputation internationale, lui-même assisté, on va dire, quoi, d'un anthropologue. Je ne sais pas si, M. Bensa, vous étiez partie prenante du concours, membre de l'équipe, quoi, mais déjà, en ça, c'est peut-être déjà innovant, quoi, dans des équipes d'architecture, quoi, d'associer quoi, des anthropologues ou d'autres sciences humaines. Donc, est-ce que c'est resté... innovant. Est-ce que c'était déjà innovant et est-ce que c'est resté en fait une expérience inédite ou comme vous le disiez, est-ce que ça a été recapitalisé quoi cette manière quoi de construire, de penser le lieu et donc en gros existe-t-il quoi et bon une architecture, une manière de faire aujourd'hui contemporaine de la ville, de la maison au quotidien. À côté quoi, de cette monumentalité du centre de Chibaou, à Tina. Merci.
Oui, j'ai participé effectivement au concours. Donc, j'étais sollicité par Enzo Piano dès le début des premiers dessins. La monumentalité, bon, elle était inscrite dans le programme. Alors, là, je crois qu'il y a deux choses dans votre question. Il y a, est-ce que... d'autres architectes qui ont recours à des anthropologues pour penser leur bâtiment. Je crois que oui, mais ce n'est pas très, très répandu. Hein. Notamment quand les gens construisent dans leur propre univers. Mais je pense que les anthropologues ou les sociologues pourraient apporter beaucoup. Mais je crois qu'il y a des travaux avec des sociologues. Bon. La deuxième partie de la question, c'est sur la... La répercussion sur d'autres types de bâtiments, ça me paraît, c'est bien vu. Enfin, c'est judicieux de poser cette question-là parce que effectivement, on pourrait la résumer comme ça. Est-ce que le centre culturel, sa technique de construction, ses formes, etc., est-ce que ça a eu des retombées dans l'architecture de la Nouvelle-Calédonie, finalement. Et ça, c'est d'abord, ça mériterait une étude attentive. Hein, faudrait aller regarder. Mais je crois que oui. Hein, je crois que oui. La médiathèque de Conné, là, qui va être inaugurée dans quelques mois, là, visiblement, ils ont visité l'architecte. Il a visité le centre culturel Chimbaou, l'introduction du bois, l'introduction d'une certaine légèreté, un mimétisme avec le monde kanak. Ça a autorisé de nouvelles recherches. Bon, alors au niveau de la construction la plus courante, des lycées, des choses comme ça, oui. Au niveau des constructions individuelles, je ne crois pas, hein, pas à ma connaissance. Mais je pense que l'expérience architecturale du centre culturel Chimbaou a eu des répercussions dans l'imaginaire architectural des Calédoniens. Enfin, ça a déplacé les lignes, si vous voulez. Hein. Ça a rendu possible une nouvelle réflexion sur ce que pourrait être l'architecture de la Nouvelle-Calédonie dans les 50 ans qui viennent.
Oui, je voudrais insister sur ce point, en fait. Alban est venu dès le premier jour du concours. J'ai même dû aller le chercher, parce que j'étais pas sûr qu'il accepte. Parce que les chercheurs, parfois, ont tendance à pas accepter de travailler dans le cadre de projets dits privés. Et il est resté jusqu'au dernier jour, puisqu'il nous a accompagnés. Et d'ailleurs, parfois, tu étais étonné, parce qu'on te rappelait, on te rappelait, on te rappelait. Il avait toujours l'impression qu'on allait lui dire de partir, mais en fait, on voulait qu'il reste. Et ça, c'était essentiel. Alors, bon, c'est vrai que c'est lié à une façon de travailler de Renzo, qui, pour avancer, a besoin d'être nourri, si vous voulez. Donc, il a besoin d'être nourri par des contraintes du projet, comme là, par exemple, tout bêtement, de construire dans la clairière. Quand on a l'entreprise est arrivée avec son bulldozer et qu'il a cassé le premier arbre, bah, il a payé 10 000 euros et il s'est arrêté de casser les arbres. Quoi. Donc les arbres anciens, d'ailleurs, avaient une valeur de symbole. Il n'y avait pas besoin de garder que des arbres jeunes qu'on a plantés, mais les vieux arbres, ils avaient une valeur, ils étaient beaux en soi. Quoi. Et Alban est donc resté jusqu'au bout. C'était essentiel. Mais ça veut dire que Renzo a besoin de se nourrir, donc des contraintes du projet, il a besoin de se nourrir aussi du savoir-faire de personnes qui l'accompagnent. Et nous, d'ailleurs, on apprend beaucoup grâce à ça. On a essayé de travailler sur d'autres projets. On a fait même le concours du Quai Branly. C'était assez amusant, parce qu'on a exploser le programme, là aussi, mais ça n'a pas été bien vu. Mais par contre, je pense que le contenu était tout à fait passionnant dans le projet qu'on avait fait. Et j'aimerais bien qu'on se retrouve, parce que, par exemple, on habite dans l'habitat, puisque moi, je suis assez sidéré par la médiocrité de ce qu'on construit, et qu'au niveau social... un monsieur comme Alban serait très utile pour accompagner les architectes et, par exemple, faire des projets d'habitat qui correspondent un petit peu aux besoins des gens. Ce serait pas mal. Ce serait bien que les promoteurs, d'ailleurs, le comprennent, pas seulement les gens qui construisent des projets publics. Voilà.
Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui souhaitent réagir dans la salle ? Attendez, prenez le micro, sinon on n'entend pas.
J'étais surpris de voir que Tchibouaoui avait le même genre de polarisation par le futur que Mandela. Et il y a probablement des choses qui sont un peu pareilles à ce qui s'est passé en Afrique du Sud. Et puis, d'autre part, la France a une attitude d'une générosité exceptionnelle en acceptant de construire ce centre, ce qu'on a constaté pour aucune autre colonie, et notamment pas du tout pour Haïti, qui est une très ancienne colonie française. Alors, j'aurais une question, c'est quelle est l'opposition qui existe encore vis-à-vis de ce centre, puisque ça a été dit à plusieurs reprises, mais on ne nous a jamais expliqué quelle opposition et pourquoi qui continue à exister.
Juste dire, ce que j'ai expliqué, c'est qu'au début, quand on a commencé les études, commencé le projet, il y avait une opposition qui nous faisait peur. Puisqu'on se demandait tout bêtement si le bâtiment n'allait pas brûler. Mais ce qui était assez étonnant, c'est que, enfin, nous, on a senti, évidemment, on n'était pas en contact avec toute la population, on était en contact avec celle qui construisait le chantier sur place, mais on a senti que les choses s'apaisaient, quoi. Et en 15 ans, c'est peu 15 ans, finalement. Donc c'est plutôt toi, Alban, qui connais bien, ou tous les deux qui connaissaient bien la Nouvelle-Calédonie. Mais nous, on l'a senti en 15 années, c'est-à-dire un peu moins de 15 années, mais début des études et la fin de la construction, c'est moins de 15 années. D'ailleurs, je suis bête, c'est 10 ans, 9 ans, je crois.
Non, les personnes qui étaient opposées à la construction de ce centre... étaient celles qui considéraient que l'État français en faisait trop pour des Kanaks que ces gens déconsidèrent ou pour lesquels ils n'ont pas de considération. Ils n'ont pas de considération pour les Kanaks. Donc ce geste de l'État français de construire ce centre dans les conditions qu'on vient de décrire apparaissait comme une véritable provocation pour... des gens qui, en Nouvelle-Calédonie, vivaient, ou certains encore aujourd'hui, vivent dans l'idée qu'ils appartiennent à une race supérieure, qu'ils sont, que les Kanaks doivent s'adapter au monde occidental et pas l'inverse. Donc, c'est vrai que, comme le disait Paul Vincent, petit à petit, ça s'est réduit parce qu'il y a eu tout un travail politique. Ce serait une autre... On pourrait faire une conférence, un autre exposé. Mais ce que je voulais dire quand même, et vous m'en donnez l'occasion, c'est qu'il ne faut pas non plus imaginer que tout est résolu en Nouvelle-Calédonie parce qu'on a construit un beau centre culturel. Pas du tout. Pas du tout. Les choses ne sont pas réglées. Ce centre aura contribué, comme on l'a dit tout à l'heure, à l'élaboration de l'accord de Nouméa, qui ouvre une période qui va s'achever en 2018 et qui va donner lieu à partir de 2012, 2014, 2016 à des référendums d'autodétermination. Et là, les Calédoniens devront, par référendum, décider de leur avenir. Au terme d'un transfert de compétences de l'État français, l'État français transfère ses compétences depuis 1998 à la Nouvelle-Calédonie. Il ne restera plus que les 5 compétences régaliennes, et à ce moment-là, on verra. Mais le pays est encore agité par des tensions importantes, et le centre du culturel, c'est une mémoire d'avenir, c'est un peu un rêve aussi, c'est un idéal, si vous voulez. Hein. Et moi, je ne suis pas absolument convaincu que tout va absolument absolument bien se terminer. Disons que c'est un moment de grâce dans l'histoire de l'humanité, en tous les cas de cette région, que d'avoir trouvé une sortie de crise qui soit honorable pour tout le monde, que Jacques Lafleur et Timbaou se soient serré la main, qu'on ait pu construire le centre culturel, que l'accord de Nouméa ait été signé. Maintenant, en Nouvelle-Calédonie, il y a des gros problèmes. Il y a des problèmes écologiques, puisqu'il y a l'ouverture de deux grosses usines de nickel. Il y a des problèmes de disparité de salaire. On dirait qu'on en a aussi, mais les hiérarchies sociales restent. La redistribution se fait plus ou moins bien. Et puis, il y a des problèmes liés à ce qu'un certain nombre de personnes, et notamment les plus récemment arrivés en Nouvelle-Calédonie, vous savez, c'est un élément important, je passe juste là-dessus, mais ça c'est fondamental, ne voteront au référendum sur l'avenir de la Nouvelle-Calédonie que les gens qui ont voté en 1998 et leurs descendants. Et tous les gens qui sont arrivés après mai 1998 ne pourront pas voter quant à l'autodétermination de la Nouvelle-Calédonie. Et ça, c'est acté dans la Constitution française, parce que ça a fallu faire une modification de la Constitution qui a eu lieu en 2007 en congrès à Versailles. Donc, si vous voulez, il y a des tensions très fortes, parce qu'il y a eu 15 000 personnes qui sont arrivées, qui ne comprennent pas très bien ce qui se passe. Il y a des Calédoniens et des Kanaks qui ont vécu toutes ces périodes de colonisation et de décolonisation qui sont favorables à une décolonisation, soit en rompant complètement avec la France, soit en restant dans une sorte d'indépendance association, comme disait Edgar Pisani. Et peut-être qu'on verra que cette période du centre culturel a été une sorte d'embellie, et j'espère simplement que la logique qui est affichée dans le centre et dans l'accord de Nouméa, etc., cette logique de destin commun, de rencontre, de respect mutuel, va être conservée. C'est pas absolument... absolument certain. Donc, il ne faut pas quitter la salle en se disant, bon, voilà un problème qui a été complètement résolu. Il n'est pas complètement résolu, mais il y a le chemin a été bien tracé, ce fameux chemin kanak.
Oui, donc je crois qu'il y a M. Culan qui voudrait prendre
oui,
la parole.
Oui, sur l'opposition au centre culturel. Déjà deux choses. Michel Rocard le rappelle, le centre culturel, c'est un objet de négociation. C'est-à-dire, c'est pas un don de la France, c'est pas un cadeau, c'est quelque chose qui est négocié, et qui est négocié sur une base, je dirais, qui est aussi l'approche philosophico-politique de Jean-Marie Djibaou. Pour moi, Jean-Marie Djibaou était gramscien, au sens fort du terme, puisque, y compris sur le travail antérieur de Mélanésia 2000, il avait compris que le rôle de la culture pouvait être un des éléments essentiels sur la mise en œuvre du politique en Calédonie. Et une partie importante du travail de négociation qui s'est fait entre Lafleur et Djibaou porte sur des points où chacun a des approches très très différentes de la réalité calédonienne. La réalité calédonienne vue du côté des négociateurs kanak est une réalité où l'enjeu culturel est un enjeu essentiel. Et c'est pour ça que c'est inscrit dans les accords de Matignon. Par ailleurs, cette compréhension de l'enjeu culturel, après la signature, une partie de la population comprend aussi que cet enjeu culturel, c'est un enjeu d'implantation symbolique de la culture kanak au sein de Nouméa la Blanche. On sort d'une période d'apartheid qui n'a pas voulu dire son nom pendant des années, où des kanaks ne pouvaient pas fréquenter des endroits de Calédonie. C'est-à-dire que culturellement, le positionnement du centre à Nouméa est quelque chose qui apparaît comme essentiel dans les premiers entretiens qu'on a avec Octave Tonia. Et donc, il y a une opposition féroce qui se manifeste dans les bureaux de la délégation aux affaires culturelles, de gens qui disent « Vous faites pour le monde kanak ce que vous ne faites pas pour le reste de la Calédonie » et qui viennent nous assaillir en permanence pour nous demander de détourner l'argent du centre culturel Djibaou au profit des autres communautés. Je veux dire, cette bataille est une bataille qui a duré au moins 4 années. Le seul qui ait tenu la parole, c'est effectivement Jacques Lafleur, dans un échange où un des délégués du ministre de la Culture venait essayer de négocier avec lui s'il était possible de détourner le contenu du centre culturel. Et c'est Jacques Lafleur qui a arrêté ce délégué dans un rendez-vous auquel on l'a accompagné, définitivement en disant non, ma parole est engagée dans ce centre.
Gilles, vous souhaitiez réagir tout à l'heure. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle ? D'autres réactions ? Alors, moi, j'aimerais quand même poser encore une question à M. Bensa. En quoi votre travail sur la Nouvelle-Calédonie, on l'a bien compris, c'est vraiment une situation qui n'a pas d'équivalent, donc c'est une situation unique au monde. En quoi quand même ce travail sur le multiculturalisme calédonien peut-il informer nos métropoles européennes et autres ? Donc le multiculturalisme, bon, ça veut tout et rien dire, mais c'est ce qui fait aussi la richesse et justement la difficulté du vivre ensemble. Donc est-ce que vous pouvez réagir par rapport à ça ?
Oui, je crois que Renzo Piano répond un peu dans le film en parlant de respect, c'est-à-dire multiculturalisme, d'accord, c'est un peu vague. Là, en Nouvelle-Calédonie, en tous les cas, les principes qui ont été posés, c'est des principes de respect mutuel. Bon, la communauté qui n'était pas respectée, c'était la communauté indigène, autochtone, c'était celle des Kanaks. Le processus de construction du centre, la politique menée, a fait que maintenant, dans l'accord de Nouméa, il est écrit que l'identité kanak doit être au centre du dispositif de la Nouvelle-Calédonie, ce qui n'est pas rien. Donc c'est un geste de respect, ce qui suppose de respecter les valeurs kanak, de respecter la coutume kanak, ce qui pose des problèmes juridiques. Aujourd'hui, il y a des argumentations terribles. Quel droit il y aura en Nouvelle-Calédonie ? Et les kanaks veulent introduire un certain nombre d'amendements au droit européen. Bon, je ne veux pas rentrer dans les détails, c'est tout à fait passionnant, et compliqué, et quelquefois difficile à admettre ou à comprendre, mais donc c'est cette idée de respect mutuel. Alors, je crois, et surtout à l'image de ce qui se passe aujourd'hui en France, que c'est là que... Enfin, moi, ce que j'ai appris de la Nouvelle-Calédonie, c'est ça. C'est-à-dire qu'il ne peut y avoir de multiculturalisme que si chacun, dans son identité culturelle, est respecté. Et ça suppose évidemment de faire un pas vers l'autre. Ça a remis en cause, en tous les cas, mes hypothèses purement universalistes que je pouvais avoir autrefois. Si vous voulez, un universalisme absolu, comme le dit, c'est ce que Bourdieu dit, il peut être extrêmement dominateur et être allié du colonialisme, si vous voulez. Donc, essayer de trouver à la fois un respect mutuel, mais aussi des points de compromis. Des points de compromis qui fassent que des gens comme Octave Tonia et Wallace Cotra en sont, Marie-Claude Djibaou en sont parfaitement convaincus, il y a un certain nombre de pratiques dans le monde kanak qui souhaiteraient voir abandonner. Il y a des gens qui sont plus progressistes dans le monde kanak, il y a aussi des gens plus conservateurs comme chez nous. Bon. Et de même, le monde européen pourrait abandonner certaines des pratiques qui sont souvent d'ailleurs semblables, enfin notamment surtout ce qui est violence faite aux femmes. Les deux communautés battent tous les records, hein, pas autant que la Polynésie, mais le record en tous les cas dans les espaces français. Et les récentes études qui ont été faites ont montré que les violences envers les femmes étaient aussi fortes dans le monde kanak que dans le monde européen de Nouvelle-Calédonie. Alors, sur des points comme ça, comme on disait autrefois, l'union est un combat. Hein, c'est-à-dire que la solution ne peut passer que par à la fois une reconnaissance de valeurs culturelles qui sont compatibles, et puis la transformation de valeurs culturelles qui ne semblent plus compatibles avec le monde moderne. Alors ce qui est intéressant dans le processus calédonien en petit, c'est que tout ça est discuté en permanence dans la perspective d'une transformation. Et quand on va aujourd'hui en Nouvelle-Calédonie, évidemment, il y a une espèce d'effervescence intellectuelle tout à fait étonnante. Ça tire tout le monde vers le haut, si vous voulez. Ça tire tout le monde vers le haut, et c'est ce que disait Paul. Il y a quelque chose comme une bonification, mais ça ne veut pas dire qu'on va aboutir. Donc moi, sur le plan du multiculturalisme que j'ai retiré de l'expérience calédonienne, c'est un nécessaire respect mutuel, une tolérance, un pas vers l'autre, et aussi la capacité à faire des compromis. Et Jean-Marie Tjimbaou était l'homme des compromis. En général, les gens qui font des compromis, ils meurent. C'est ce qui s'est passé. Hein. C'est-à-dire, il a fait un compromis. C'est-à-dire, ça, je le sais très bien, parce que j'étais dans la solidarité pour l'indépendance du peuple kanak, etc. Et certains ne voyaient d'avenir que dans la lutte armée. Ouais, Tjimbaou disait, d'accord, mais pour faire une lutte armée, il faut une armée. Or, nous n'avons pas d'armée. Et en plus, on n'a pas vraiment envie de se lancer là-dedans. C'est-à-dire, on arrivera à l'indépendance, mais tous divisés, et c'est des militaires qui prendront le pouvoir. Et des militaires kanak, comme il n'y en a pas pour l'instant, c'est pas la peine d'en inventer. Donc, il était favorable à une solution négociée. Voilà. Et c'est ce qu'il a essayé de faire en serrant la main de la fleur. Je sais qu'à l'époque, on était très, très étonnés, hein. Essayer de montrer une voie médiane. Bon. C'est vrai que la comparaison avec Mandela me paraît tout à fait juste. Hein.
J'ai lu quelque part qu'il était surnommé le Mandela calédonien.
Oui, ça a été dit. Malheureusement, bon, il était assassiné. Il avait 56 ans. Bon, il avait encore une carrière politique devant lui. Il avait pressenti, dans plusieurs entretiens, on le voit bien, que la mondialisation allait mettre à mal les identités locales. Et que ces identités locales ne pouvaient pas survivre si elles se repliaient sur elles-mêmes, d'où sa phrase prophétique, notre identité est devant nous. Mais il y a beaucoup de gens aussi sur la planète aujourd'hui qui ne considèrent pas du tout que leur identité est devant nous, mais qu'elle est derrière eux, et qu'il faut ramener le passé dans le présent. Donc si vous voulez, c'est un véritable penseur politique, hein, ce que d'ailleurs la gauche a eu du mal à admettre. Hein, j'ai été témoin, parce qu'il avait été prêtre. Alors ça, donc pour les socialistes, donc ils ont du mal à admettre, la France a du mal à admettre le penseur indigène, si vous voulez. Hein, bon, et Tjimbaou faisait des propositions non seulement pour la Nouvelle-Calédonie, mais qui pouvaient avoir une valeur plus large pour la planète. Et c'est l'intelligence de Rocard de l'avoir très bien compris. Mais Rocard nous a expliqué un jour, il a dit, moi j'ai bien compris ça parce que moi je suis un minoritaire, je suis d'une culture minoritaire, je suis un protestant. Voilà. Et quand on regarde les solutions qui ont été trouvées en Nouvelle-Calédonie, la façon dont Pierre Jox, qui protestant lui aussi, qui désarme les gendarmes au moment de l'insurrection kanak, enfin, où les kanaks investissent les gendarmeries le 18 novembre 1984, et qui donne comme ordre, vous ne ripostez pas, vous rentrez chez vous, vous attendez. Les Calédoniens étaient complètement... Mais en même temps, c'était une mesure de sagesse. Sinon, c'était des dérapages à l'infini. Du coup, bon, ça a restreint le nombre de victimes. Et donc, cette Jospin qui reconnaît les langues kanak comme langue d'enseignement, enfin, tout un ensemble de dispositions qui sont presque un peu prophétiques. Mais les prophètes ne sont pas toujours écoutés, comme vous savez. Mais enfin, c'est un peu prophétique par rapport aux problèmes qu'on rencontre aujourd'hui en France et en Europe. Hein. C'est-à-dire faire une place aux autres, mais trouver des voies pour leur faire une place. Et là, il y a quelque chose de vraiment heuristique, je trouve, exemplaire dans ce qui s'est passé dans ce petit pays. Et c'est sûr que Jacques Lafleur, il y a d'autres films hein, genre, qui ont été tournés au moment des événements, qui dit ah ben, vous savez ici pour nous Tjimbaou il est un peu plus intelligent que la moyenne, ce qu'il disait en 84-85, où il y a quelques kanaks intelligents. Enfin, on était vraiment dans une logique coloniale totale. Et puis finalement Jacques Lafleur, il s'est converti alors contre les siens. Alors je veux pas bon, c'est un tableau d'un personnage extraordinaire, mais enfin, fallait le faire. C'est pas absolument évident, lorsqu'on est pris dans un conflit comme ça, de faire un pas. Bon, ça avait été bien préparé par la mission du dialogue de Rocard, mais enfin, il y a un moment où le geste est fait. Et en Nouvelle-Calédonie, il y a d'autres gens qui ont fait ces gestes maintenant, et il y a quelque chose qui... Mais il y a aussi des pesanteurs dans l'autre sens, des intégrismes, des radicalisations. Et justement, le pilotage du centre culturel, de ce point de vue-là, est très, très important. Soit il ne s'est pas du tout consacré à un repli identitaire, mais il y avait la tentation, il y a eu la tentation quelquefois. C'est pas si simple. Il veut essayer de s'ouvrir, ouvrir à d'autres spectacles, faire venir Henri Salvador, on en parlait tout à l'heure. Parce qu'au début, il ne voulait pas que le centre culturel soit un lieu marchand, enfin de marchandisation de la culture avec des concerts, etc. Petit à petit, on y est venu, puis on voit les autres communautés qui viennent, puis il y a plein d'autres initiatives dans ce sens-là. Donc voilà, la Calédonie a quelque chose d'exemplaire, elle nous avertit, montre une voie qui est possible. Alors peut-être que c'était possible ou c'est possible sur 250 000 habitants au maximum en Nouvelle-Calédonie, sur 60 millions de personnes plus. C'est plus compliqué, mais enfin, c'est cette voie à la fois de la reconnaissance mutuelle et de la tentative de trouver des compromis. Et là, je crois que la Calédonie nous donne un message d'espoir. On ne désespère pas complètement de l'humanité en regardant ce qui se passe en Nouvelle-Calédonie. Et j'avoue que je pense que c'est une chance incroyable que nous avons eue là, de pouvoir travailler dans ce pays. Enfin, c'est un enrichissement humain, politique et esthétique considérable.
Simplement pour vous inviter le 7 au soir ici à l'entrepôt pour un double vernissage, la grande exposition Jim Shaw du CAPC. Et la très belle exposition, Il a disparu, qui est consacrée à l'œuvre de Dominique Lion et Dubessé dans la Galerie Blanche. Quand elle consacre une exposition à cette équipe qui se situe hors des sentiers de la communication et de l'architecture et qui demande à être mieux connue. Voilà, donc le 7, et puis après à tout Agora, au H14, partout en ville. Voilà. Et à Pechakucha demain soir au 308. Chez nos amis du 308.
Excusez-moi. Oui, pour tous ceux et celles qui voudraient poursuivre le voyage un peu vers l'Océanie et la Nouvelle-Calédonie, je me permets, hein, je reconnais personne, pardon, d'annoncer en fait le festival du cinéma des pays du Pacifique et d'Océanie le 21, 22, 23 et 24 mai, donc dans deux semaines à Rochefort. 1h30 de TER, c'est à côté, avec ou notamment ce film-là, Renzo Piano, Le Chemin Kanak, était présenté, projeté l'année dernière en présence du Réal et donc avec une programmation autant de fiction que de films ethnographiques, scientifiques, de documentaires et voilà. Donc je encourage tout le monde à venir ces prochaines années.
À titre